Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonsoir. Le pape François a reçu ce matin les 500 diacres permanents du diocèse de Rome accompagnés de leur famille. L'occasion pour le Saint-Père d'explorer avec eux la spiritualité propre à leur ministère, le service, qui requiert essentiellement deux choses, la disponibilité intérieure et l'ouverture vers l'extérieur. Soyez humbles, leur a dit le pape, soyez des sentinelles. Le compte-rendu de Cyprien Viette.
Le pape a mis en garde contre une confusion qui se développe en raison de la diminution du nombre de prêtres, qui fait que l'engagement des diacres s'est dispersé dans des tâches de substitution qui, bien qu'importante, ne constitue pas la nature spécifique du diaconat. Les diacres, en effet, enseigne le Concile Vatican II, sont avant tout voués aux fonctions de charité et d'administration. Et dans les premiers siècles du christianisme, ils étaient surtout actifs parmi les pauvres et les malades. Aujourd'hui, les diacres romains sont bien présents dans Caritas et dans d'autres réalités proches des pauvres. C'est un bon chemin, car en agissant ainsi, vous ne perdrez jamais votre boussole, a expliqué François. Les diacres ne sont pas des demi-prêtres ou des prêtres de seconde zone, ni des enfants de cœur de luxe, mais bien des serviteurs attentionnés qui se mettent en quatre pour que personne ne soit exclu et que l'amour du Seigneur touche concrètement la vie des gens, a martelé François. Le pape a rappelé l'importance de l'humilité et du soin de la vie familiale. Soyez de bons époux et de bons pères et aussi de bons grands-parents, a demandé François, en insistant sur la fonction d'exemplarité des diacres mariés pour les autres couples et les autres familles. Cela donnera de l'espérance et de la consolation aux couples qui connaissent des moments de fatigue et qui trouveront dans votre simplicité authentique une main tendue, a expliqué le pape François.
Cyprien Viette, l'actualité vaticane aussi marqué ce samedi par la reconnaissance de Robert Schuman comme vénérable. Le pape a autorisé ce matin la promulgation du décret reconnaissant les vertus héroïques de ce père de l'Europe, premier président du Parlement européen. Homme de foi, engagé très tôt auprès des plus démunis de façon constante et discrète. Par ailleurs, 19 autres bienheureux ont été annoncés ce matin, dont 10 religieuses martyrisées par l'armée rouge entre février et mai 1945. Tout est à retrouver sur notre site vaticannews.va. Demain, 20 juin et ensuite le 27, les Français se rendent aux urnes pour des élections départementales et régionales, un double scrutin aux enjeux théoriquement locaux qui s'apparente plus à une vaste répétition nationale, un an avant la présidentielle et les législatives. L'Église de France des évêques aux associations rappelle l'importance de participer au vote pour ne pas affaiblir la démocratie. Il souligne notamment les thèmes liés aux migrants et aux réfugiés, ainsi que le souci de préserver le bien commun. L'actualité internationale ce samedi, marquée par ce nouveau président en Iran, Ebrahim Raisi a été élu vainqueur dès le premier tour de l'élection qui se tenait hier. Les résultats définitifs sont tombés ce midi. Le conservateur a rassemblé 61,95% des voix. Le taux de participation au scrutin n'était guère reluisant, un peu plus de 48%, soit la plus faible mobilisation enregistrée pour un scrutin présidentiel depuis l'instauration de la République islamique en 1979. Et toute l'opposition iranienne en exil de par le monde a salué ce boycott de la présidentielle par les électeurs. Certains de ses représentants établis à l'étranger le considère comme un coup porté au système théocratique du pays. Remaniement ministériel en Afghanistan, le président Ashraf Ghani a remplacé ses ministres de l'Intérieur et de la Défense aujourd'hui face à la progression des talibans dans de nombreux territoires du pays. Un changement qui intervient alors que les insurgés disent avoir pris le contrôle de plus de 40 districts ces dernières semaines dans les campagnes afghanes et alors que les négociations de paix de Doha au Qatar sont au point mort. Des milliards de roubles, c'est ce que promet aujourd'hui Vladimir Poutine aux Russes avant les législatives. Le chef du Kremlin multiplie les promesses d'aide financière pour améliorer le quotidien de la population. Avant les élections de septembre, il s'est exprimé durant une heure lors du congrès du parti au pouvoir Russie Unie. C'était à Moscou tout à l'heure. Passer un accord avec le FMI est nécessaire et urgent pour le Liban, vu l'ampleur de la crise. C'est ce qu'a estimé ce midi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Beyrouth. Le diplomate espagnol a par ailleurs fait allusion à de possibles sanctions européennes contre des dirigeants libanais. Ils sont jugés responsables de l'impasse politique actuelle et de la profonde misère économique et sociale qui touche le pays. À Beyrouth, le récit de notre correspondant Paul Khalife.
Le chef de la diplomatie européenne a transmis un message de fermeté aux dirigeants libanais qu'il a rencontrés samedi à Beyrouth. L'Union européenne pourrait avoir recours à des sanctions ciblées contre ceux qui sont accusés de bloquer le processus de formation d'un nouveau gouvernement. Un tel gouvernement doit voir le jour rapidement et des réformes doivent être menées immédiatement, a martelé Josep Borrell après un entretien avec le président de la République, Michel Aoun. Le responsable européen a également rencontré le chef du Parlement, Nabih Berri. Les deux dirigeants libanais sont à couteau tiré depuis plusieurs jours et se livrent une véritable guerre de communiqués, s'accusant mutuellement d'empêcher la formation d'un gouvernement. Seul un accord urgent avec le Fonds monétaire international sauvera le Liban de l'effondrement financier, a affirmé le chef de la diplomatie européenne, qui a ajouté qu'il n'y a pas de temps à perdre. Selon Josep Borrell, l'Union européenne a les ressources et la volonté de soutenir le Liban, mais cette aide ne viendra qu'après le lancement d'un processus de réforme et dès que le programme du FMI sera mis en place. Le responsable européen a souligné la gravité des répercussions de la crise sur la population libanaise. Une crise provoquée selon lui par les Libanais eux-mêmes, non pas par une main étrangère. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
L'Éthiopie aux urnes lundi, malgré les violences et la famine, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique vote pour des élections législatives très attendues. La région du Tigré en particulier est secouée par les violences. Ces élections devraient offrir au parti dit de la prospérité actuellement au pouvoir une majorité confortable au Parlement, permettant à Abiy Ahmed d'être élu Premier ministre. La fin de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée, confirmée par l'Organisation mondiale de la santé ce samedi. Une bonne nouvelle quelques mois après la réapparition de cette maladie rapidement vaincue grâce à l'expérience accumulée en 2013-2016 où elle avait fait des milliers de morts. La Guinée devrait maintenant entrer dans une période de surveillance épidémiologique renforcée pendant 90 jours. C'est demain dimanche que s'achèvera la campagne Share the Journey de Caritas Internationalis en la Journée mondiale des réfugiés. Cette initiative consacrée aux migrants avait été lancée le 27 septembre 2017 par le pape François. Durant 4 ans, les Caritas locales du monde entier ont renforcé la culture de la rencontre à travers une multitude d'actions favorisant le dialogue, l'écoute et la fraternité, comme le partage d'un repas ou la marche mondiale de solidarité. Un premier bilan de cette campagne a été dressé mardi dernier en salle de presse du Saint-Siège. Parmi les intervenants, Mgr Bruno-Marie Dufay, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral. Il revient pour nous tout d'abord sur le sens et l'originalité de ce projet.
Share the journey, partager le chemin, c'était et c'est vraiment partager nos expériences humaines et ne jamais réduire les migrants à être des migrants, mais à être des hommes, des femmes, des enfants, des anciens qui ont la soif, le désir d'avoir des amis, de pouvoir échanger, de parler de musique, de parler de culture, mais aussi de parler de travail, de parler de l'avenir. Donc, c'est partager tout ce qui nous constitue dans notre humanité. Et donc, nous avons là, vraiment, avec cette expérience, cette originalité d'expérience, pas simplement faire la charité ou vivre la charité, pas simplement aider, mais construire ensemble. On pourrait dire, dans notre langage de l'Église, c'est faire une synodalité sociale, faire le chemin ensemble.
Il était important d'agir à la fois au niveau spirituel, politique, social ou encore moral.
Oui, toutes ces dimensions se confortent l'une l'autre. C'est-à-dire, quand vous oubliez une dimension, vous êtes plus faible dans l'expérience de la solidarité. C'était une grande intuition du christianisme social des années 50, déjà. À partir du moment où vous considérez les personnes avec toutes les dimensions, c'est la définition du développement humain intégral, eh bien, vous trouvez, vous découvrez, en tout cas, c'est l'expérience personnelle que j'ai avec les migrants en France, vous découvrez des talents, des capacités. Et à l'intérieur même des communautés religieuses, des églises, si nous faisons attention à la présence des migrants, si nous ouvrons l'espace de nos liturgies, de nos prières, de nos rencontres, nous découvrons aussi une sensibilité religieuse qui leur est propre. Je pense aux réfugiés syriens, je pense aux réfugiés irakiens, je pense aux réfugiés des Balkans. Il y a comme une sorte de trésor de la foi ou de trésor de l'espérance contenu dans chacune des personnes, alors même qu'elles ont vécu la souffrance de l'exil, de la solitude et parfois de la maltraitance.
Cette campagne de Caritas s'achève ce 20 juin, la Journée mondiale des réfugiés. Avez-vous un message à transmettre à cette occasion ?
Le pape François dit dans Fratelli Tutti, nous avons besoin d'une architecture de la paix et nous avons besoin de l'artisanat de la paix. L'architecture de la paix, c'est apprendre à construire une maison commune. Nous pouvons construire une maison commune. Il y a du travail pour tous, il y a des activités pour tous. Et puis nous avons besoin de l'artisanat. Alors l'artisanat, vous savez, ça me fait penser à ces gens qui vous disent, moi je ne sais pas bien ce que je peux faire pour changer la situation. Mais j'ai vu des migrants qui dormaient dans la rue et je suis allé leur porter un café un matin parce que je me disais que finalement, c'est pas mal d'avoir un café chaud quand on a dormi dehors.
Interrogé par Hélène Détombe, Mgr Bruno-Marie Dufay, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral, était ce samedi l'invité du dossier de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, ce sera lundi matin, 8h30 en direct de Rome. D'ici là, l'actualité du pape, du Vatican et du monde se passe sur vaticannews.va. Excellent dimanche à chacun d'entre vous.